Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 29 janvier 2024, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin et avec mon équipe, nous avons le plaisir de vous retrouver tous les lundis pour une heure d'échange sur l'actualité nantaise. Je me retrouve au plateau avec Enzo, Maud et Perrine pour le moment. Dans le sommaire de ce soir, nous avons le plaisir d'écouter donc la deuxième chronique de Perrine sur l'espoir fait vivre, apparemment. Donc ça sera du coup la deuxième, vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, suivie d'une première musique. Nous ferons ensuite pas une pause café, mais une pause cadeau avec Esteban, qui vous offrira à l'un d'entre vous des places pour le concert caritatif pour l'Ukraine le 2 février 2024 à 20h au Ferrailleur. Nous ferons ensuite découvrir donc le groupe qui jouera ce soir-là, Raga Pop. Maud poursuivra en nous présentant le portrait de vie de Xavier Navat, un photographe mais également commissaire d'une exposition qu'elle a pu voir, expo photo contemporaine intitulée « Jouer contre les appareils » à l'atelier à deux pas de chez nous. Étant donné que c'est à deux pas, c'est l'occasion de nous passer un petit coucou mais également de nous faire un retour sur cette expo.
Salut Martin!
Salut, salut. Nous continuerons par écouter un troisième extrait musical à découvrir ou à redécouvrir. Et puis nous terminerons, bien évidemment, par la Crovic, la chronique de Victor intitulée « Rétablissons la vérité ». Mais avant tout ça, nous commençons par Enzo. Salut Enzo.
Salut.
Qui nous fait un zoom actu sur la précarité et la solidarité à travers l'association du Secours Populaire et ses actions. En effet, le Secours Populaire tire la sonnette d'appel d'urgence face à la précarité qui touche de plus en plus de personnes. Nous aurons également par téléphone, du coup, normalement, on l'a déjà. On aura également, du coup, Nathalie Bouillet. Est-ce que vous nous entendez, Nathalie ?
Oui, je vous entends. Un peu lointain, mais je vous entends.
Bon, on essaiera de parler distinctement, directement. Nathalie est directrice départementale du Secours Populaire et c'est tout de suite dans le Zoom Actualité et dans Curiosité.
Curiosité, le Zoom Actu.
L'histoire se répète, les messages demeurent inchangés et bien souvent ils s'aggravent avec le temps, mais le silence, lui, prend de l'ampleur. Ce silence dissipe de nos consciences ces femmes, ces hommes ainsi que leurs enfants. Ils deviennent invisibles, faisant partie intégrante du décor urbain, dissimulés dans des recoins des rues, recroquevillés sous des couvertures. À l'arrière des magasins, ils se retrouvent seuls et abandonnés à leur sort, leur voix étouffée par la fatalité de la misère qui les accable. S'ils ne sont pas dans la rue, c'est aussi en silence que les étudiants et les étudiantes s'enfoncent dans la précarité. C'est comme ça, c'est la vie, il y a de la misère partout, pourrait-on entendre quelquefois. Mais cette indifférence résonne comme un coup de massue, un affront à l'espoir d'une vie meilleure. Le silence, c'est surtout celui des autorités, entravées par des services surchargés, l'impossibilité d'accueillir des individus non reconnus, l'absence de réponse et de prise en charge. Alors ce soir, c'est l'antenne du Secours Populaire des Pays de la Loire qui tire la sonnette d'alarme. Sur le terrain, les bénévoles sont confrontés à une situation critique. Nous avons beaucoup entendu nos représentants ces derniers temps, mais très peu, voire aucun mot pour les sans-abri. Alors le Secours Populaire se mobilise pour contribuer à la solidarité populaire, comme à l'image d'un autre homme et d'une autre fondation, l'Abbé Pierre, qui déjà, en février 1954, appelait à la solidarité et à l'ouverture de centres pour les sans-abri en plein cœur de l'hiver glacial. Vous voyez, l'histoire se répète, les messages demeurent inchangés et bien souvent, ils s'aggravent avec le temps, mais le silence, lui, prend de l'ampleur. Mais alors, pour briser ce silence, nous recevons la directrice départementale du Secours Populaire, Nathalie Bouillet, merci d'être avec nous ce soir. Alors Nathalie Bouillet, vous lancez un appel d'urgence pour les personnes à la rue mais autres situations de précarité qui s'aggravent et notamment, vous le remarquez, pour les femmes et les enfants en particulier. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer à propos de cette détérioration de la situation ?
Effectivement, les dirigeants du Secours Populaire réunis nationalement à la mi-janvier ont décidé de communiquer largement sur la situation dramatique vécue par les personnes est de plus en plus dramatique, vécue par les personnes qui osent franchir nos portes chaque jour partout en France pour demander le soutien de l'association. Et en Loire-Atlantique, pour relayer cet appel puisque la situation, malgré a priori un contexte économique plus favorable en Loire-Atlantique, par exemple, par rapport à d'autres départements des Pays de la Loire, malgré cette situation qui semble favorable, les personnes qui ont franchi les portes de l'association en 2023 ont été aussi nombreuses qu'en 2022 et ont été 3000 personnes de plus qu'en 2021. Donc on relaie ce cri d'alarme poussé nationalement par nos dirigeants parce que localement, c'est exactement la même situation qui est vécue par ces hommes, par ces femmes, par ces enfants, comme vous venez de le dire, qui se retrouvent parfois à la rue ou parfois dans des logements insalubres et qui peinent à assumer les dépenses du quotidien et sollicitent le soutien des associations, dont le Secours Populaire, pour pouvoir ne serait-ce que manger et puis faire valoir leurs droits.
Pourquoi le système ne parvient-il pas à accueillir ces personnes dans le besoin, les autorités ? Vous dites que les autorités ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient faire.
Bah, disons que l'association Le Secours Populaire est une association complémentaire. Devrait être avec son action une association complémentaire des pouvoirs publics et il semblerait que sur certains sujets, parfois, notre action vienne à la place de où les besoins sont tellement immenses que les travailleurs sociaux dont c'est le métier n'arrivent plus à faire face. C'est aussi une crainte importante et un grand nombre de personnes à accueillir. Donc les bénévoles des associations, dont ceux du Secours Populaire, prennent le relais. Dans ces cas-là, la situation s'aggrave. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme tous les Français, les plus fragiles subissent encore plus que les Français moyens, entre guillemets, le contexte d'inflation, hein, qui fait que quand on a du mal à se nourrir avec des prix moyens, quand les prix augmentent comme ils l'ont fait ces deux dernières années, ça devient catastrophique. Il en est de même pour les prix de l'énergie. Pour ceux qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer, pour aller faire quelques heures de travail, le prix du carburant a flambé ces deux dernières années. Donc, pour les plus fragiles, c'est encore plus difficile. Et à Nantes et en Loire-Atlantique, on le voit au quotidien.
Et quelles actions vous menez sur le terrain pour répondre à cette crise ? Est-ce que vous intervenez simplement en ville, à Nantes, ou partout sur le territoire, dans des communes plus petites ?
L'action du Secours Populaire en Loire-Atlantique est répartie sur 25 communes du territoire. On parle des grosses agglos, Nantes et Saint-Nazaire, bien sûr, et des communes de l'agglomération nantaise, type Saint-Herblain, Rosay, etc. Mais notre action, elle se diffuse ailleurs aussi sur le territoire en Loire-Atlantique, dans des communes plus petites, qui nous accueillent à Donges, par exemple, à Châteaubriand, à Blain, et d'autres communes encore plus petites, où du coup, on a une permanence itinérante qu'on appelle le Solidaribus, qui depuis près de 15 ans maintenant, sillonne les routes du département pour aller apporter la solidarité au plus près de ceux qui ont besoin de notre soutien et qui n'ont pas forcément les moyens de venir à notre rencontre ailleurs.
Et comment vous procédez pour accueillir ces personnes dans ces centres ? Parce que je rappelle que le cœur de votre mission n'est pas d'offrir des solutions de logement à ces personnes.
Exactement. En fait, on agit en deux temps. Le premier, et la raison majeure pour lesquelles les personnes franchissent nos portes ou pour lesquelles elles viennent nous rencontrer, c'est l'aide d'urgence, l'aide alimentaire. Quand le frigo est vide, quand on est une maman et que son frigo est vide, ben on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'aller solliciter les soutiens des associations comme le Secours Populaire. Elles sont nombreuses à venir nous rencontrer. Donc, on répond bien sûr à cette aide d'urgence et à ce besoin urgent qui est de nourrir la famille. Mais on a à cœur ensuite de pouvoir, une fois le ventre un peu plus plein, accompagner chacun et chacune dans ses accès aux droits, que ce soit à la santé, aux loisirs, aux vacances, à la culture. Et vraiment, tout au long de l'année, on a à cœur d'offrir des solidarités qui vont aussi nourrir l'esprit et pas que le ventre.
C'est aussi un autre type de population qui se retrouve de plus en plus dans la précarité, ce sont les étudiants et les étudiantes. Comment expliquez-vous cette paupérisation de cette tranche-là de la population ?
Écoutez, il s'agit là majoritairement d'étudiants qui ne sont pas forcément boursiers, mais dont les parents, malgré tout, n'ont pas forcément les moyens d'assumer la charge d'un loyer supplémentaire, de courses supplémentaires pour leur enfant qui est étudiant dans une autre ville de France que la leur. Et ces jeunes essaient parfois de faire un boulot complémentaire pour pouvoir financer leurs études, mais ça peut être au détriment aussi de la qualité de leurs études. Et quand ça devient trop problématique et trop dramatique, ils franchissent les portes des associations, dont le Secours Populaire à Nantes, pour lequel nous avons mis en place depuis la rentrée de septembre 2023 une permanence qui est dédiée aux étudiants le samedi matin pour l'aide alimentaire, deux samedis matins par mois, pour l'aide alimentaire pour ces étudiants. Et puis aussi, une fois par mois, depuis de nombreuses années, nous sommes sur le campus pour offrir une aide vestimentaire à ces étudiants dont les parents ne peuvent assumer le coût des études et qui doivent se prendre en main seuls.
Vous avez aussi remarqué que c'était de plus en plus de femmes et leurs enfants, des femmes seules. D'où viennent ces familles en difficulté ?
Eh bien, écoutez, ce sont des femmes qui essaient d'assumer la charge de leur foyer seule avec leurs enfants. Et donc, de travailler quelques heures pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Malheureusement, aujourd'hui, ces métiers peu reconnus sont très peu valorisés côté salaire. Et donc, du coup, ces heures qu'elles font ne suffisent pas à nourrir la famille. Elles n'ont pas d'autre choix que de venir nous voir. Et puis, parfois, ce sont des femmes qui arrivent de l'autre bout du monde aussi et qui, pour sauver la vie de leurs enfants et la leur, ont parcouru des kilomètres et franchi la Méditerranée pour arriver en France où le contexte, malgré leur vie très difficile ici, est plus sain et plus serein pour elles que les contextes de guerre qu'elles peuvent avoir fui parfois.
Est-ce que vous vous sentez, vous et l'association en elle-même, submergée par la demande actuelle? Est-ce que vous disposez des moyens nécessaires, notamment en termes de bénévoles, face à cette demande?
Bah écoutez, pour accueillir les 25 000, près de 25 000 personnes qui ont franchi nos portes en 2023, ce sont 1400 bénévoles en Loire-Atlantique qui sont mobilisés au quotidien pour faire en sorte que ces personnes qui franchissent nos portes reçoivent un accueil digne, un accueil inconditionnel, avec des denrées qui baissent au niveau des dons qui nous sont faits, avec l'obligation désormais d'aller acheter de la marchandise et pour cela aller chercher de l'argent pour pouvoir acheter de la marchandise. Et donc ces 1400 bénévoles ont été mobilisés, ils le sont encore, pour faire que demain soit plus humain et garde en eux cette volonté profonde d'apporter la solidarité au plus près de ceux qui ont besoin de notre soutien, malgré effectivement, vous le dites, un contexte difficile de baisse de dons de marchandises alimentaires, d'objectif d'aller collecter de l'argent pour pouvoir acheter, de faire des démarches d'achat, ce qui n'est pas du tout la mission des bénévoles initialement. Notre modèle économique de fonctionnement qui était basé sur le don alimentaire ou le don de vêtements, etc., est complètement remis en question avec les démarches citoyennes qui sont lancées et intéressantes pour la société française, mais difficile à vivre pour les associations comme les nôtres, de anti-gaspi, de seconde main pour les vêtements. Tout ça, ça peut se faire au détriment précaire et il nous faut réinventer au niveau du Secours Populaire et d'autres associations nos modèles de fonctionnement pour pouvoir continuer à apporter une solidarité aux plus fragiles qui, selon le modèle, n'est plus forcément basé sur les dons alimentaires qui nous sont faits, mais désormais parfois sur des achats ou sur des vêtements en diminution en tout cas.
Quels sont les défis que vous prévoyez pour les jours à venir, voire les mois à venir, pour le Secours Populaire?
Eh bien écoutez, à l'échelle nantaise, pour pouvoir faire face et continuer à accueillir, alors juste à l'échelle de Nantes, les 10 000 personnes qui ont franchi nos portes et les à l'échelle nantaise, notre idée est d'ouvrir un second site pour pouvoir apporter de l'aide alimentaire aux plus fragiles et pouvoir désengorger, entre guillemets, le site actuel qui se situe pas très loin de la place Verne, rue Thumaine à Nantes. L'idée étant d'offrir à chacun et à chacune une meilleure qualité d'accueil. Et puis du coup la possibilité pour de nouvelles personnes de solliciter notre soutien dans des conditions dignes et que notre accueil reste inconditionnel pour tous.
Est-ce que certains ont peur de franchir le pas de Secours Populaire par rejet d'être aidé ou par honte d'être aidé?
Ben, c'est avant tout la honte qui domine dans ces cas-là, effectivement. Quand vous êtes une maman, c'est un exemple, mais une maman solo qui fait quelques heures et qui malgré de travail et qui malgré tout n'arrive pas à donner à manger au quotidien à votre enfant, le premier sentiment qui domine, c'est la honte. Combien de femmes arrivent dans nos locaux en disant, vous savez, ça fait une semaine que je mange qu'un repas par jour parce que tous les autres repas, je les laisse à mes enfants pour que eux aient la force de grandir et d'aller à l'école. Moi, c'est pas grave, je viens après. Et donc effectivement, pour ces mamans, pour ces personnes, quand on a eu la chance d'avoir une situation correcte et que ça dégringole par un accident de la vie, par une perte d'emploi, par simplement, encore une fois, l'inflation, les prix d'énergie, etc., qui font basculer des budgets de famille, c'est difficile d'aller solliciter le soutien. Mais nos portes sont ouvertes, nos bénévoles sont là pour accueillir quiconque a besoin de notre soutien. Et ça, vraiment, c'est un message à faire passer. Vous êtes, c'est pas écrit sur votre front, c'est pas écrit sur votre tête que vous êtes venu au Secours Populaire voir, mais le soutien que vous allez recevoir va vous permettre de souffler un peu et de reprendre un peu d'oxygène dans une situation qui, on le sait, est souvent très difficile.
Très beau message. Et comment nous, en tant que particuliers, on peut faire des dons, vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des moyens d'aider le Secours Populaire?
Notre appel à la solidarité, effectivement, il est double. Il est, vous avez envie d'aider, que vous ayez 2 heures dans le mois à donner ou 2 heures par jour à donner, vous êtes le bienvenu pour rejoindre les équipes du Secours Pop partout en Loire-Atlantique et partout en France pour apporter la solidarité, pour organiser la solidarité. Comme je disais, il y a le fait de donner une aide alimentaire, mais il y a aussi le fait d'organiser les vacances, de prévoir des séjours pour Noël et des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire à nos côtés. Donc, nouveaux et futurs bénévoles, vous êtes les bienvenus. Et puis, bien sûr, le nerf de la solidarité, c'est l'argent. Comme je vous le disais, on est contraint de plus en plus à procéder à des achats, là où avant on bénéficiait de dons. Et donc, pour faire ces achats, il faut collecter des dons financiers. Et l'association, vous pouvez faire un don sur le site du Secours Populaire de Loire-Atlantique ou nous envoyer un chèque à l'adresse de l'association 16 rue du Maine à Nantes. Et cet argent sera valorisé pour mener à bien nos actions de solidarité partout en Loire-Atlantique auprès des 25 000 personnes qui ont sollicité notre soutien l'année dernière.
Tout ce qui est humain est nôtre, telle est la devise du Secours Populaire qui a besoin de vous, chers auditeurs et auditrices. Merci Nathalie Bouillet, directrice départementale du Secours Populaire, de nous avoir transmis ce message d'urgence et d'appel à la solidarité. Restez avec nous sur Curiosité. Tout de suite, nous vous proposons un premier morceau de l'artiste londonienne Green Tea Peng, Free My People, Libérez mon peuple. A tout de suite dans Curiosité.
It's for my people, yeah. Free all my people, yeah. All my people, yeah. This for my people, yeah. Free all my people, yeah. Free all my people, yeah. We don't wanna chat until my people free. We don't wanna chat until my people free. We don't wanna chat until my people free. And we are gonna chant until my people free. To be famous for the wrong things, gossiping and fronting is a long thing. All that other nonsense is just fussing. And it's like living in a contest. Can you free us from this concept? Free us from the chains that you all invest. Government indulging in some incest, ignoring all my people in a protest. It's for my people, free all my people, for all my people. It's for my people, free all my people, free all my people. We don't want to chat until our people free. Release all of my brothers on a we church, please. You don't get to tax me on what God gave me. Paying for hypnosis off the TV screen. No. No. So much confusion onto my people. Or disillusion falling my people. And disillusion poisons my people, suppress my people, oppress my people. No, no.
You see yourself.
Chers auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur Prune, il est 17h50 et nous continuons dans Curiosité avec la chronique de Perrine sur l'espoir fait vivre une nouvelle par rapport à la semaine dernière. C'est tout de suite.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
La semaine dernière, je vous ai parlé d'élections. Dans cette deuxième chronique sur le thème « L'espoir fait vivre », et j'ose espérer que je tiendrai mon thème jusqu'à la fin de l'année, je vais vous parler des institutions. Non contente de tenir mon thème, je me rajoute un challenge supplémentaire, des épisodes en Sion. Immigration, célébration, natation, pollution, végétation, fornication, embarcation, bifurcation, reconversion, solution, ça me laisse l'embarras du choix pour les semaines à venir. Les institutions. Pour une chronique sur l'espoir, ça paraît un peu casse-gueule, me direz-vous. Et pourtant, en moins d'un mois, certaines d'entre elles m'ont redonné du baume au cœur. Ah oui, cette expression « baume au cœur », je vais aussi essayer de la replacer chaque semaine. J'arrête ici le suspense pour vous dévoiler de ce pas le nom de trois institutions qui sont remontées dans mon estime ces dernières semaines. Roulement de tambour, sont nommés pour la palme du baume au cœur ce 29 janvier 2024, le Conseil constitutionnel, la Cour internationale de justice et la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque nous pouvons être fiers de nos institutions, parlons-en. Dans chacun des trois cas que je vais vous présenter, ces institutions ont fait leur boulot. Elles ont rempli leur mission, elles n'ont pas failli et ont gardé la tête haute face à la toute-puissance des pays, gouvernements ou entreprises concernées par les dossiers pour lesquels elles ont été saisies. On commence par le plus facile, le Conseil constitutionnel. Fin décembre, il a été saisi, vous le savez, sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. C'est ça le vrai nom de cette loi. Pour rappel, le premier projet de loi avait été déposé par le gouvernement le 1er février 2023 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Il a été voté par le Sénat le 14 novembre, après avoir été remanié et durci, faisant passer le nombre d'articles de 27 à 90. Il a ensuite été rejeté par l'Assemblée nationale le 11 décembre par le biais d'une motion de rejet, préalable à l'étude même du texte. Une commission mixte paritaire s'est donc réunie les 18 et 19 décembre pour parvenir à un accord sur une nouvelle version du texte qui reprend très largement celle votée par le Sénat. Vous avez voulu passer en force ? Vous aviez oublié que vos lois devaient respecter les articles de la Constitution ? Qu'à cela ne tienne, le 25 janvier 2024, les 9 sages du Conseil constitutionnel étaient là pour vous le rappeler. 35 articles sur 86 ont été censurés, soit 40%. Non mais faut pas nous le faire à l'envers, hein ? Parmi ces 35 articles censurés, 32 ont été considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des articles de loi qui introduisent des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. Ce qui est contraire à l'article 45 de la Constitution. Et bim, au suivant. Parlons à présent, pour notre palme du baume au cœur, au niveau international, auprès de la Cour internationale de justice. Le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de cette cour, basée à La Haye, accusant Israël de génocide sur le peuple palestinien de Gaza. Les audiences des deux pays, l'un pour l'accusation, l'autre pour sa défense, ont eu lieu les 11 et 12 janvier. Et la Cour internationale de justice a donné son premier verdict le 26 janvier. Elle a ordonné à Israël d'autoriser l'accès humanitaire à Gaza et de prendre immédiatement toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Si la plainte sur le fond sera examinée plus tard par la Cour, et cela peut prendre des années, sa présidente a néanmoins précisé que la Cour a ordonné certaines mesures conservatoires car, je cite, « la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque sérieusement de se détériorer davantage avant que le tribunal ne rende son jugement final ». En plus des mesures provisoires prononcées vendredi, la plus haute juridiction de l'ONU a également demandé à Israël de soumettre un rapport dans un délai d'un mois sur toutes les mesures prises pour donner effet à cette ordonnance. Le secrétaire général de l'ONU rappelle que conformément à la charte et au statut de la Cour, les décisions de la Cour sont contraignantes et espère que toutes les parties se conformeront dûment à l'ordonnance de la Cour. Et nous aussi, on espère. C'est un peu le thème de ma chronique. La troisième et dernière nomination pour notre palme du jour, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, mieux connue sous le nom de CNIL. Le 27 décembre dernier, la CNIL a sanctionné Amazon France Logistique d'une amende de 32 millions d'euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif et disproportionné. La CNIL fait part à Amazon de graves manquements au RGPD, vous savez, le règlement général sur la protection des données. Quand les institutions font donc leur travail ou qu'on ne les empêche pas de le faire, elles peuvent trouver des ressources pour l'État. Dans ce cas de figure, elles récupèrent de l'argent gagné sur le dos de travailleuses et travailleurs exploités et poussés au burn-out. De quoi peut-être financer nos retraites ? Moi, je ne fais qu'observer et chercher des solutions. Voilà pour moi trois sanctions emblématiques des institutions en un mois. Ça, ça fait plaisir. Mais soyons lucides et clairvoyants. Même si ça ne fait pas la une des journaux pendant des semaines, D'autres batailles ont déjà été gagnées grâce aux institutions. Je pense notamment à la dissolution des soulèvements de la terre annulée par le Conseil d'État. Alors, à tous ceux qui se croient au-dessus des lois, attention, les institutions veillent au grain et on va s'en saisir car on ne lâche rien. Ces institutions font partie des garde-fous de notre démocratie. Protégeons-les. Elles nous préservent de la folie des hommes. De quoi garder espoir, non ?
Merci Perrine pour cette nouvelle chronique qui fait réfléchir en effet. Si vous ne connaissez pas encore du coup Le Fer Ailleurs ou si ne vous connaissez pas non plus éventuellement le groupe Raga Pop, restez à l'antenne, c'est tout de suite dans la pause cadeau avec Esteban. La pause cadeau.
Ce soir, Prune te fait gagner des places pour la soirée de soutien aux musiciens et musiciennes ukrainiens et ukrainiennes au profit de l'asso Musique défend l'Ukraine le vendredi 2 février au Ferrailleur. Trois groupes seront présents. Raga Pop, groupe ukrainien dont l'esthétique du groupe est un mélange de performance et de musique influencé par le post-punk et l'électronique Lofi. Parcours Santé sera également là, avec une énergie transmissible comme 3 balles de flipper. Parcours Santé, des potes sans chichi avec beaucoup de poésie. Et finalement Queen Willow, entre fable écologiste et portrait réaliste. Le chant de Léo Doublé donne la voix à l'humain et à la nature avec pudeur, empruntant à Chet Baker sa douceur et à Thom Yorke sa sincérité. Donc pour avoir la chance de gagner 2 places pour la soirée caritative du Ferrailleur, envoie un drapeau ukrainien sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la pause cadeau d'aujourd'hui, on se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, on écoute le morceau Gordosti de justement Raga Pop, bonne écoute.
Падають раптом темно, безодню стрімла у те, вже нема під ногами ґрунту твердого.
Високість вибравшись, падають раптом в темну, безодні стрімглав, де вже нема під ногами ґрунту твердого. Гордості родять тирана пха, їду діл неподобних до безхосених же діл, та на найвищу високість вибравшись, падають раптом в темну, безодні стрімглав, де вже нема під ногами ґрунту твердого. Є щастя, я коли сам себе чую щасливим і з тим чуттям умира. Гори вам, гори, людські покоління, поки живі ви, мов тінь марна. Бачиш, бува, кому більше є щастя, я коли сам себе чую щасливим і з тим чуттям ра.
щасливим із тим чуттям.
Vous venez d'écouter le groupe Raga Pop sur Prune qui jouera ce vendredi au Ferrailleur. Alors si vous ne connaissez pas les couleurs du drapeau ukrainien, sachez que c'est à moi de vous donner un cadeau. Il est composé de deux couleurs. La première couleur c'est le sac de Perrine et le deuxième c'est le manteau d'Enzo. Tout de suite nous continuons avec le portrait de vie. Du coup il s'agit de cette fois-ci donc Maud qui a été voir l'exposition du coup Jouer contre les appareils qui présentera plusieurs photographes contemporains, ce depuis le 17 janvier jusqu'au 10 mars à l'atelier juste à côté de chez nous. Et nous avons le plaisir de recevoir Xavier Navat, photographe et commissaire de l'exposition. Merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
C'est tout de suite et c'est dans Portrait de vie.
Curiosité. Portrait de vie.
Ce son ne vous a pas semblé inconnu ? Il s'agit bien évidemment du son d'un appareil photo qui capture un moment qui est désormais figé dans le temps. La plupart d'entre nous s'est effectivement déjà essayé à immortaliser un instant vécu, qu'il s'agisse d'un paysage en voyage ou encore le portrait d'une personne qui nous est chère. Depuis son invention au XIXe siècle, la photographie a connu de nombreuses transformations. De la première photographie en noir et blanc à la couleur, de l'analogique au numérique, la photographie n'a de cesse évolué et s'est réinventée. Les appareils photo, quant à eux, se sont miniaturisés au fil des années jusqu'à être intégrés directement sur nos smartphones. Aujourd'hui, bien que la photographie soit devenue un langage universel qui transcende les frontières et les cultures, il n'y a pas qu'une manière de faire de la photographie. Certains artistes décident ainsi de s'approprier cet art visuel différemment de ce qui est attendu, à travers un courant qui est celui de la photographie expérimentale. Ces photographes se distinguent par leur non-respect des règles habituelles de la photographie conventionnelle. Parmi ces artistes, certains jouent par exemple avec le temps, la lumière ou encore avec le tirage. D'autres déconstruisent l'appareil en n'utilisant pas d'objectif, voire parfois même pas d'appareil photo du tout. D'autres enfin déplacent l'auteur photographe en incluant, par exemple, leur propre corps dans le geste photographique. Un baiser photographique émanant du souffle d'une bouche, des corps qui chutent tête en bas, ou encore des paysages visibles à travers des gouttes de gélatine alimentaire, telles sont les œuvres photographiques qui naissent de ces expérimentations. Ces œuvres, et bien plus encore, sont actuellement exposées à la Galerie L'Atelier à Nantes jusqu'au 10 mars dans le cadre de l'exposition « Jouer contre les appareils, une photographie expérimentale ». Pour en parler, donc comme l'expliquait Martin, nous sommes en compagnie de Xavier Navat, commissaire de l'exposition. Bonsoir Xavier, merci bonsoir. D'être avec nous. Alors Xavier, j'ai une première question. Vous êtes vous-même photographe expérimental et je souhaiterais donc commencer par cette question qui est la première que je me suis posée. Quelles sont même peut-être les raisons qui expliquent qu'un photographe expérimental choisisse la photographie comme moyen de s'exprimer alors qu'il en détourne la manière attendue même de faire de la photographie. En d'autres termes, pourquoi ce support spécifiquement et non un autre ?
Quand j'ai commencé la photographie, tout de suite, d'une façon intuitive, je ne me suis pas intéressé à la description du monde. Ça a été plutôt essayer de traduire une poétique qui était encore très très floue à l'époque, mais regarder la réalité, mais par un prisme. Je prends souvent l'image de la serviette qu'on sort de l'eau et qu'on essore. Et pour moi, la réalité, eh bien, c'était pareil. J'avais envie de l'essorer, de la transposer, sans avoir envie de la montrer telle qu'elle est, quoi. Telle que l'appareil photo peut nous donner à voir, quoi. Donc il a fallu détourner. Et c'est vrai que ça fait quelques années que j'avais envie de réunir des photographes qui travaillent sur cette pratique. On a beaucoup vu de photographies documentaires depuis pas mal d'années. Et je crois que la photographie expérimentale a été assez peu montrée. En plus, elle a accompagné les différents courants, les avant-gardes dans les années 20, les années 30. Le surréalisme a beaucoup travaillé contre les appareils. Et donc, j'ai eu disons que ça a été un peu le hasard. Le hasard est un grand facteur.
D'où le côté expérimental aussi.
Totalement. Je suis tombé sur le livre de Marc Leneau, qui porte le nom de l'expo, parce que j'ai voulu que, plutôt lui rendre hommage aussi.
Je trouve
que c'est un très beau titre. Hein. Mmh. Sur jouer contre les appareils, où il explique... il en a fait une thèse, et après il y a eu un livre paru, et donc il parcourt comme ça la photo expérimentale depuis les années 50. Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ce personnage, il faut que je le rencontre, parce que c'est incroyable, il cristallise quasiment tout ce que j'ai envie de savoir, parce que bon, c'est vrai que ça, la photo expérimentale, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages autour de cette question. Et donc, je ne suis pas souvent allé au Festival de Arles, mais j'y suis allé quelques fois, et j'y suis allé, et en feuilletant le programme, je vois sur une place publique Marc Leneau en train de faire une conférence. J'ai dit, je ne sais pas si c'est le...
C'est le hasard qui fait bien les choses. Et j'ai d'ailleurs visionné ces vidéos, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, il me semble. Je les ai visionnées pour rediffusion. Mm. Quelle est la... Alors, vous l'expliquez, je pense, un petit peu avec ce lien. Quelle est, du coup, la genèse de cette exposition et quelles étaient, finalement, vos intentions premières? Est-ce que c'était vraiment faire connaître, peut-être, un plus large public la photographie expérimentale?
Oui, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu très peu d'expositions. Sur 15 ans, on a compté 3 expositions collectives. Une fait par Yann Dibetz, un artiste hollandais, qui s'appelait La Boîte de Pandore au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et ensuite, juste après le confinement, il y a eu dans 3 endroits différents la photographie à l'épreuve de l'abstraction, et dont il y a 2 artistes qui étaient dans cette expo et qui sont à l'atelier. Et puis en ce moment, il y a à la BNF à Paris, il y a la matière photographique, c'est pas tout à fait le titre, mais bon, mais qui a une ligne éditoriale beaucoup plus large que la nôtre. Et donc, assez vite, on a profilé les artistes, beaucoup d'artistes, mais bon, il y en a eu certains qui n'ont pas pu venir nous rejoindre. Et puis, petit à petit, on s'est dit, on va quand même prendre des artistes. À 90%, ils n'utilisent pas d'appareil photo. Et donc, c'est ça la ligne vraiment forte de l'expo.
Et qui va bien, du coup, avec son nom. En parlant d'artistes, donc, il y en a 17 qui sont exposés, dont un duo.
Oui, un mari et femme. Oui.
Très bien. Si je cite, par exemple, Pierre Savatier, Nancy Wilson-Pagic, Morgane Adaoui, Patrick Bailly et Maître Grand. Voilà, et donc, il y en a 17 au total. Mmh. Chacun utilise des procédés qui se distinguent et des matières différentes.
Oui.
En tant que commissaire de cette exposition, comment vous sélectionnez ces artistes et quels sont vos critères d'appréciation quand vous êtes, vous, face à une œuvre?
Alors déjà, Marc, dans son livre, avait répertorié 3 manières d'aborder la photo expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui définissent un artiste expérimental. Alors, il n'y en a pas que 3, disons que ce sont les 3 principales. D'abord, c'est... travailler dans le laboratoire, et souvent le photogramme est un chemin assez beau pour faire de la photo expérimentale. Alors, il y a plusieurs manières de faire du photogramme. Il y en a dans l'exposition au moins 3 ou 4 manières.
On laissera les visiteurs aller s'en rendre
eux-mêmes. On peut décrire, mais disons que le photogramme, pour faire assez simple, c'est étaler une feuille de papier photosensibilisée par terre, par exemple, et poser un objet. Les enfants dans les ateliers, ils adorent ça. Mettre leurs mains, une clé, une feuille. Donc on a, avec la lumière, donc on allume très rapidement la lumière, et on a une silhouette, on a une empreinte en négatif de l'objet.
D'où le fait qu'il n'y ait pas besoin d'appareil photo à ce moment-là.
Il n'y a pas besoin, non. Ensuite, il y a les artistes qui fabriquent leur propre appareil. Et donc, il y en a un dans l'exposition, Jean-François Lecourt. C'est assez particulier ce qu'il fait. On pourra peut-être y revenir, parce qu'il a une façon d'employer son sténopé assez originale. Et puis, il y a un autre type d'artistes qui utilisent quand même l'appareil photo, mais qui en détournent totalement les règles. Les règles de prise de vue, les règles d'exposition, les règles de vitesse, bon, tout ce qui fait le programme de l'appareil photo, quoi.
Est-ce que vous avez peut-être une œuvre ou un artiste en tête, justement, peut-être pour décrire le dernier critère dont vous parliez ?
Alors, il y a une photographe qui a un très beau travail sur le blanc. Le blanc, ouais, vous en avez le souvenir.
Oui.
Alors, je pense parce qu'elle ne veut pas dévoiler sa méthode. Mais je pense qu'elle utilise l'appareil photo, mais qu'elle en détourne totalement les règles. Je crois qu'elle a un studio extrêmement lumineux. Donc, les modèles qu'elle fait passer dans son studio sont éclaboussés de lumière. Peut-être qu'elle, elle travaille sur une surexposition, ce qui fait des photos extrêmement blanches. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit dans les manuels de bien faire de la photo, quoi.
Et j'ai effectivement les images en tête, et c'est vrai que ça fait un côté très pur, où finalement on voit les silhouettes,
oui,
et
oui.
On se demande un petit peu ce qui se passe à cet instant. Xavier, on me fait signe que ça va être l'heure de la pause musicale. Avant qu'on la diffuse, je vais avoir une question pour vous, parce que vous avez choisi la musique New Moon at Red Wallow de Rentry Crow, qui est donc la musique, et vous avez voulu tester mon anglais, je crois, au passage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, je vais vous donner 20 à 30 secondes, pour nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette musique en particulier ?
C'est une musique que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, et c'est un très très bel album. Et donc cette musique-là, je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est une musique plus ou moins électronique, rock progressif, c'est un peu une synthèse, mais je trouve qu'elle avance très lentement, comme un spectateur, comme un visiteur d'exposition qui va de tableaux, de photos en photo. Et il y a à un moment donné cette clarinette basse, je crois, qui donne un aspect un peu profond, caverneux, comme une chambre noire. Donc voilà, c'est pour ça, quoi.
Très bien, merci. Et bien, on va du coup laisser nos auditeurs et auditrices l'écouter. Bonne écoute et à tout de suite. Auditeurs, auditrices, nous sommes de retour sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter New Moon at Red Wallow de Ren Tree Crow, musique choisie par notre invité du portrait de vie du jour, Xavier Navat. Donc Xavier est commissaire de l'exposition « Jouer contre les appareils » de la photographie expérimentale qui est présentée à l'atelier à Nantes jusqu'au 10 mars. Cette exposition met en avant le travail de 17 artistes dont un duo dit expérimentaux qui se distinguent par leur non-respect des règles de la photographie conventionnelle. Alors Xavier, avant qu'on passe un petit peu plus de temps sur votre carrière et votre travail également en tant que photographe expérimental, vous aviez également le souhait de nous parler un petit peu plus d'un artiste que vous exposez qui est Jean-François Lecourt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son travail, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr, c'est un travail assez particulier puisque c'est le seul dans l'exposition qui fabrique son appareil photo. Donc un appareil photo, ça a un moment, un endroit où la lumière va passer et à l'opposé, il y a une pellicule ou un papier qui a été mis qui va réceptionner cette lumière. Donc Jean-François, lui, il fabrique d'abord sa boîte noire. Mais c'est une boîte noire qui est sans trou, sans aucun orifice, sans aucun petit sténopé. Donc, comme il est amateur de tir, il se recule et il va tirer dans l'appareil. Donc maintenant, essayez de voir la trajectoire de la balle. La balle va percuter la première paroi de l'appareil, va ouvrir un petit trou. Et à ce moment-là, la lumière rentre dans l'appareil. La balle continue son chemin, va percuter la deuxième paroi, donc va trouer le papier qui est à l'opposé et va continuer son chemin. Donc la lumière rentre, la balle traverse le papier et lui reste quelques instants devant l'appareil pour que son image soit imprimée sur la feuille de papier.
Donc il n'y a plus qu'à aller découvrir le résultat.
Non mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est une démarche très originale. Mmh. Voilà.
Exactement, et qui a donc toute sa place à l'atelier en ce moment même. Quel est selon vous, Xavier, l'avenir de la photographie expérimentale dans les années à venir ?
Bien, en tant qu'enseignant à l'École des Beaux-Arts, je travaille avec évidemment des jeunes étudiants et ce qui les intéresse à l'heure actuelle en arrivant dans l'atelier, c'est la photographie argentique. Il n'y a que ça qui les intéresse. Je crois que la photographie numérique, c'est pas passé de mode, mais ils en font toute la journée, ils sont sur leurs écrans. Donc ce qui les intéresse, c'est la manipulation, c'est faire apparaître des choses. Et il y a aussi beaucoup d'étudiantes qui vont sur Internet essayer de repérer des produits, du café. Ça, j'avais jamais entendu parler du café qui pouvait révéler des images. J'ai même vu dans le laboratoire une boîte d'aspirine.
D'accord.
Je crois qu'il y a énormément de produits qui font réagir les papiers photosensibles. Et je crois que c'est ça qui les intéresse.
Donc, il y a une envie de travailler la matière, de faire des expérimentations, de tester et de voir finalement ce que ça peut donner.
Voilà, comme le cyanotype où on en voit deux magnifiques à l'expo. Donc, je pense que ça reste une niche, évidemment, l'argentique par rapport au bulldozer numérique. Mais ça fascine les gens. Ça fascine beaucoup de monde.
Et vous parlez justement de numérique et du côté bulldozer numérique. Vous, quel regard vous portez sur le numérique et son avènement ces dernières années ?
Justement, j'expose une photographie qui est un peu partie de cette réflexion. Je ne suis pas un grand fan d'Internet, mais ça m'arrive quand même de regarder Internet comme tout le monde. Et une fois, j'ai dû passer une après-midi sur Internet pour chercher des trucs. Et le soir, en me couchant, j'étais en train de me rappeler cet après-midi et j'avais vu des milliers d'images et je me souvenais de plus rien.
Ouais, tellement d'informations.
Voilà, donc le plus égale moins. Quoi. Mm. Donc je me suis dit, tiens, comment je pourrais exprimer ça, voilà, en photographie. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours manipulé, gratté les pellicules, là j'ai pris tout un tas de pellicules dans les classeurs dont je ne me servais pas, parce que les photographes accumulent beaucoup de pellicules dans les classeurs. Donc je me suis dit, je vais les redonner une deuxième vie, je vais les recycler. Et j'ai gratté, et j'ai pris des lambeaux d'émulsion sur ces pellicules que je mouillais dans l'eau chaude pour assouplir. Et donc ces lambeaux, je les mets sur une autre pellicule noire, et donc j'en fais des compositions abstraites, plutôt colorées. Donc c'est parti un peu du surplus d'informations qui fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme les souvenirs.
C'est ça, pour essayer finalement d'en garder un ou de montrer qu'avec le surplus, on peut aussi garder une trace peut-être.
Bah, c'est un peu comme quand on essaie de regarder notre passé, notre enfance. On a des éclairs comme ça, il n'y a pas grand-chose en fin de compte par rapport à toute notre vie. Donc c'est un petit peu cette idée-là que j'ai voulu exprimer, quoi.
Et Xavier, si on va encore plus loin, quel regard vous portez sur l'intelligence artificielle qui forcément va aussi avoir un impact sur le monde de la photographie? Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel?
L'exposition, avant de voir le livre de Marc Leneau, j'avais lu un livre extraordinaire, un petit livre qui s'appelle « Petite philosophie de la photographie » de Flusser. Et justement, il parle de l'appareil, de l'appareillage qui a submergé notre vie. Et une de ces idées qu'il développe dans le livre, c'est le fait que l'industrie s'est emparée de l'appareil, fabrique des appareils qu'on achète, et il prévoit à 40%, même peut-être plus, toutes les règles de la photographie sont minutieusement programmées dans ces appareils. Donc Flusser dit que quand on pense faire une photographie et en être l'auteur, en fin de compte, il y a 40%, c'est l'appareil qui fait la photo. Donc l'intelligence artificielle, je me dis, ça ne sera pas 40% là. On sera... Est-ce qu'on tiendra? Est-ce que la liberté qu'on aura envie de... qu'on a en nous, quoi, va résister? Je ne sais pas. Écoutez, je pense que ça va être un sacré débat, ça.
Exactement. Bah, écoutez, vous reviendrez pour en débattre ensemble.
Ça sera peut-être une prochaine exposition.
Et bah, écoutez, on vous le souhaite et on l'espère. Ouais. Il est temps pour nous de nous quitter. Merci beaucoup, Xavier, en tout cas, pour votre temps et notre échange. Et je rends l'appareil le micro plutôt, à Martin. Je voulais juste donc rappeler que... C'est un appareil, je pense que j'ai fait un petit jeu de mots sans le vouloir. Je voulais juste rappeler que Xavier, vous êtes le commissaire d'une exposition qui a lieu donc, à l'atelier Jouer contre les appareils, qui est visible jusqu'au 10 mars. On mettra de toute façon toutes les informations à la fin de l'émission. Merci encore, Xavier.
Merci.
Merci Maud et merci Xavier Nabat pour cette belle présentation d'exposition que du coup Jouer contre les appareils. Effectivement, vous avez jusqu'au 10 mars pour découvrir ces 17 artistes. Nous vous mettrons toutes les informations. Sachez que c'est environ jusqu'à 19h ou 18h le dimanche et fermé le lundi. Comme toujours, Victor nous surprend, nous fait rire et nous fait... sourire, nous fait rire et même nous fait pleurer de rire. Et, wow. Mais c'est toujours avec plaisir en tout cas et c'est dans la chronique de Victor. C'est tout de suite.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Bonsoir, ces derniers temps, de plus en plus de fausses informations ont tendance à être diffusées. Je vais donc tenter d'enrayer à mon échelle ce phénomène et non, je ne vous parlerai pas aujourd'hui des origines martiennes de notre président, ni du fait que Michael Jackson, Tupac et Jacques Chirac sont en réalité protégés par le FBI sur une île du Pacifique. Non, je garde les gros dossiers pour plus tard. Ces derniers temps, le courrier des auditeurs de Curieux Lundi ne fait que nous féliciter, nous encourager, nous dire à quel point l'émission est fantastique. Je me dois, en tant que journaliste attaché aux faits, de rétablir la vérité, par exemple sur l'émission de la semaine dernière. Une émission qui avait pourtant bien commencé, nous étions complètement à la bourre, tout le monde en retard et personne à l'heure. Heureusement, bon professionnel, Martin n'a rien laissé paraître. Jouons donc au détecteur de mensonges.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 22 janvier 2024, il est 17h30.
Effectivement, il semblerait que notre cher Martin ait des difficultés à lire l'heure ou bien que nous soyons tombés dans une faille spatio-temporelle. Félicitations pour ce bluff à celui que l'on surnomme le Scarface du 92 FM. Nonobstant une préparation inversement proportionnelle au retard que nous avions, votre animateur préféré a poursuivi, mais là, hélas, le masque est tombé.
Que Enzo, salut Enzo.
Salut.
Ça annonçait la couleur de la cohésion d'équipe, mais ce ne fut pas le principal des 40 coups durs des 45 premières secondes de l'émission. Reprenons par exemple le moment où Martin sortait les avirons face au mépris non fin de son camarade Enzo.
Oui, bah bonsoir, on peut dire bonsoir. Il y en a certains qui disent bonsoir déjà à 17h30. Il y en a certains qui sont certainement du coup à l'apéro.
Et même certains avant l'antenne. C'est cependant un superbe rattrapage, beau geste technique, même les plus grands professionnels n'y arrivent pas. Prends-en de la graine, Léa Salamé. Nous avons donc tenté, titubant sous l'effet du Ricard, de poursuivre l'introduction en annonçant les invités. Hélas, c'est un terrain miné à côté le Vietnam, c'est de la rigolade. Et même avant, et annoncer les invités est probablement la tâche la plus ingrate qui puisse vous tomber dessus, le critère non imprononçable étant souvent décisif dans le choix des invités par la rédaction. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de piège, tout semblait parfait, peut-être trop, c'était suspect, mais tant pis, vas-y Martin, dis qui c'est, introduis-les.
On va commencer du coup tout à l'heure avec Enzo, et nous accueillons sur notre plateau Marie-Yvonne Harouet et Jean-Paul Ménard, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est Jean-Pierre, mais c'est pas grave.
C'est un piège. Même là-haut, c'est autant le moins. Non, Martin, ne saute pas.
C'était en outre l'événement de l'émission de la semaine dernière. Si Fortnite avait pu se payer un concert d'Eminem, nous n'avons en aucun cas démérité, et même au contraire contre-attaqué contre ce géant du jeu vidéo. Tremble Epic Games, elle retourne sa casquette et la voilà. Voici Perry Minem, en exclu sur la 92 pour son single le plus connu. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Accrochez-vous à vos chaises, à vos lave-linges, à vos petites sœurs et ambiancez-vous.
Classé par date d'élection, ça donne. Îles Marshall, Bangladesh, Bhoutan, Taïwan, Comores, Liechtenstein, Népal, Tuvalu, Finlande, Salvador, Azerbaïdjan, Pakistan, Indonésie, République démocratique du Congo, Biélorussie, Sénégal, Cambodge, Iran, Suisse, Irlande, Portugal, Russie, Maldives, Slovaquie, Togo, on est qu'au mois de mars, Corée du Sud, Îles Salomon, Malte, Panama, Macédoine du Nord, Lituanie, République dominicaine, Inde, Afrique du Sud, Islande, Mexique, Belgique, Union européenne, Mauritanie, Mongolie, Croatie, Rwanda, Sri Lanka, Autriche, Lituanie, Mozambique, Géorgie, Uruguay, Botswana, Éthiopie, Tunisie, États-Unis, Palaos, Somaliland, Guinée-Bissau, Roumanie, Moldavie, Maurice, Namibie, Ghana, Algérie, Croatie, Saint-Marin, Venezuela, Roumanie. Il y a aussi des dates incertaines pour le Kiribati, la Jordanie, le Madagascar, le Mali, Ouzbékistan, Royaume-Uni, Tchad, Birmanie, Liban et Guinée.
Vous en rêvez. Vous en avez rêvé, je l'ai fait.
Merci du coup Victor pour cette nouvelle chronique. Bon, j'aurais appris qu'effectivement il faut faire très attention quand on passe à l'antenne parce que malheureusement c'est comme dans tous les médias, ça reste sur internet, il faut faire très attention. Merci en tout cas pour cette nouvelle chronique Victor. Il est désormais 18h30, je me trompe pas, 18h30, il est bien 18h30. Vous êtes, c'est la fin de Curiosité dans Prune, et oui le temps passe trop vite quand du coup on est en bonne compagnie et surtout avec une équipe que l'on adore. Merci infiniment du coup à toute l'équipe et également du coup à nos invités qui sont venus, que ce soit en physique ou à l'antenne ce soir. Toute l'équipe vous remercie, on se retrouve lundi prochain, même heure, d'ici là prenez soin de vous. Et restez à l'antenne tout de suite, c'est Radio Grève à 19h.
Non, c'est pas Radio Grève.
Non, c'est pas Radio Grève.
C'est pas Radio Grève. Je me suis trompée encore. C'est pas possible. Bon, j'ai arrêté dossier, je pense que du coup, il faut arrêter. Coupez l'antenne tout de suite. Coupez l'antenne.
C'est n'importe quoi.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.